VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Jean-Roger Bion à ce micro, il est 11h en temps universel. Le gouvernement burundais a exigé la fermeture du bureau à Bujumbura du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, avec lequel il a déjà suspendu toute collaboration depuis octobre 2016. Une note verbale qui demande la fermeture a été remise mercredi au coordinateur résident de l'ONU au Burundi, Gary Kanoï, afin qu'il la transmette à Genève à la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet. Le Burundi est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat controversé. Il avait été réélu en juillet de la même année. Au Togo, les églises évangéliques, presbytériennes et méthodistes appellent à un report des législatives prévues le 20 décembre et boycottées par les principaux partis d'opposition. Nani Talani.
Dans une déclaration commune, ces églises dénoncent les conditions non consensuelles dans lesquelles est organisé le scrutin et réclament un report de quelques mois qui permettrait d'approfondir le dialogue. Ces organisations dénoncent aussi l'attitude de la classe politique, viscéralement obnubilée par la défense de ses intérêts politiciens, qui amène légitimement à se poser des questions sur son attachement pour le peuple qu'elle aspire à diriger. En outre, elle déplore le fait que les réformes qu'exige l'opposition pour limiter les mandats présidentiels n'ont toujours pas été faites. D'autre part, les églises déplorent que la révision du fichier électoral ait été faite par la CENI sans la participation inclusive de l'ensemble de ses acteurs. Le pouvoir de Lomé s'est engagé à mettre en œuvre les réformes demandées, mais l'opposition dénonce une manipulation. Le projet de texte n'étant pas rétroactif, cela pourrait permettre au président Gnassingbé d'effectuer encore deux mandats.
L'ONU, l'Union africaine et la Côte d'Ivoire, présidente en exercice du Conseil de sécurité, ont plaidé mercredi en faveur des organisations internationales œuvrant pour la paix dans le monde au lendemain de nouvelles critiques américaines mettant en cause leur efficacité. Ces déclarations, sans viser directement un discours critique, la veille à Bruxelles, du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à l'égard de l'Union européenne, l'ONU ou l'Union africaine sont intervenus lors d'une session du Conseil de sécurité organisée par Abidjan sur l'après-conflit et la stabilité. Mike Pompeo a regretté mardi qu'aujourd'hui, aux Nations unies, les missions de maintien de la paix s'éternisent depuis des décennies sans être plus proches de la paix. International Crisis Group tire son aide d'alarme sur le sort des jeunes des régions sahéliennes du Tchad qui émigrent vers le nord du pays ou la Libye. Les autorités libyennes intensifient des contrôles dans les régions concernées. Mahamat Nou Ibedou, le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, estime que la solution du gouvernement tchadien est contre-productive.
Figurez-vous qu'un gouvernement responsable, en principe, il devait adopter une certaine politique qui puisse lui permettre de soutenir ces jeunes-là, de les occuper et de développer ces régions-là afin de fixer les jeunes sur place, leur faire oublier leur misère, leur infortune, leurs conditions. Or, le gouvernement, non seulement il n'essaye pas d'étudier le problème à fond afin de juguler cette hémorragie à la base, c'est-à-dire en s'attaquant aux vraies causes, parce que l'immigration, c'est les effets. Mais la vraie cause, c'est la misère. C'est la misère, c'est le harcèlement des forces de l'ordre dans ces régions.
Mahamat Nou Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains. Le premier ministre gabonais qui a rencontré mardi son président en convalescence à Rabat au Maroc a déclaré qu'Ali Bongo, hospitalisé depuis près de deux mois, se porte plutôt bien. Mais joint à Libreville par Irénée Amanongo, Auguste Essono, professeur de sciences politiques, a parlé de manœuvres des autorités alors que de nombreux Gabonais se posent des questions sur l'état de santé de leur président.
Le peuple pense qu'on ne lui dit pas la vérité. Le peuple pense qu'il y a une machine qui est mise en place pour organiser un énorme mensonge d'État depuis le 24 octobre. Et pour cette simple raison, la parole du Premier ministre ne peut pas avoir un écho favorable au sein des populations, de mon point de vue.
À quoi alors s'attendent les Gabonais? N'est-ce pas des informations concernant l'état de santé de leur président?
Les Gabonais attendent la vérité. Mais lorsqu'un peuple a le sentiment qu'on ne lui dit pas la vérité, bien évidemment, ce qui passe pour être un mensonge d'État ne peut pas apaiser les inquiétudes, puisque le peuple est convaincu qu'on lui ment.
Mais à votre avis, quel intérêt est-ce que les autorités gabonaises ont à créer un flou autour de l'état de santé du chef de l'État?
Les autorités gabonaises veulent conserver le pouvoir. Parce qu'au sein de la majorité, l'on reste à peu près persuadé que si une transition est organisée, ça veut dire sur fond, après avoir constaté, si tel était le cas, la vacance de pouvoir, si ce que demande la Constitution est respecté, la présidente du Sénat sera installée comme présidente par intérim de la République, elle organisera les élections et la majorité étant persuadée qu'elle n'est pas en mesure de gagner cette élection, et puisqu'elle veut conserver le pouvoir, alors elle fait tout pour gagner du temps afin de mettre en place des mécanismes qui vont l'aider à tricher, à faire semblant d'organiser une transition tout en tirant les ficelles de sorte à ce que le pouvoir soit conservé.
À vous entendre, vous ne croyez pas aux propos du Premier ministre, c'est bien cela.
Je suis un citoyen de ce pays, avant d'être un ancien chercheur. En tant que citoyen, je pense que le Premier ministre a menti. Qu'est-ce qui me le fait dire ? Lorsqu'on regarde les photographies et les vidéos qui sont diffusées depuis à peu près 2 à 3 jours, il n'y a pas besoin d'être un expert pour se rendre compte de la grossièreté de ces montages et pour se rendre compte justement de la manipulation qu'il y a derrière. Les images ne sont pas nettes, les images manquent d'authenticité, cruellement d'authenticité. Pas besoin d'être un expert pour le dire. À partir de ce moment, je ne peux pas accorder foi en tant que citoyen de ce pays à ce qu'affirme le Premier ministre.
Le professeur Auguste Yenné-Sono joint à Libreville. Après une longue pénurie de vaccins, la Libye va lancer cette semaine une campagne pour vacciner plus de 2,7 millions d'enfants sous la supervision de l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Cette campagne nationale de vaccination, organisée en coopération avec l'UNICEF et rendue possible par un financement de l'Allemagne, doit commencer samedi, a précisé lors d'une conférence de presse Jaffa Hassan, le représentant de la Libye à l'OMS.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Sous l'impulsion de l'ambassadrice américaine sortante, Nikki Haley, l'Assemblée générale de l'ONU est appelée aujourd'hui à voter une résolution condamnant les tirs de roquettes vers Israël du mouvement islamiste palestinien Hamas, sans garantie toutefois qu'une majorité suffisante permettra son adoption. Si le texte est approuvé, il s'agira de la première condamnation par l'ONU du Hamas, une organisation qui dirige la bande de Gaza depuis 2007. Le vote est prévu à partir de 20h GMT. Pour la première fois depuis 2016, de fragiles pourparlers de paix inter-yéménite s'ouvrent aujourd'hui en Suède sur fond d'urgence humanitaire entre le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite et la rébellion appuyée par l'Iran. Ces pourparlers organisés sous l'égide des Nations Unies constituent une rare occasion de remettre sur le chemin de la paix le Yémen dévasté par 4 années de guerre qui ont fait au moins 10 000 morts et poussé 14 millions de personnes au bord de la famine. Dans une tribune publiée aujourd'hui par le New York Times, le médiateur de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths, a dit espérer que les pourparlers apportent de bonnes nouvelles pour Odeida et le peuple yéménite. Le 41e président américain George H. W. Bush va être enterré aujourd'hui au terme de 4 jours d'hommage qui ont offert une rare image d'unité dans une Amérique divisée après des obsèques d'État mercredi auxquelles ont assisté ensemble à Washington le président Donald Trump et 4 de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Le cercueil de George H.W. Bush est parti pour Houston à bord de l'avion présidentiel. L'ancien président sera inhumé aujourd'hui derrière la bibliothèque présidentielle George Bush aux côtés de Barbara, son épouse pendant 73 ans, décédée en avril, et de Robin, leur fille morte d'une leucémie lorsqu'elle avait 3 ans. La Corée du Nord a agrandi une importante base de missiles à longue portée dans les mois qui ont suivi le sommet historique entre son leader Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, d'après des images satellites diffusées mercredi par la chaîne CNN. Selon le média américain, Pyongyang a développé sa base de Yeongjeo-dong dans l'intérieur montagneux du pays et construit une installation qui n'avait pas encore été publiquement identifiée. Des experts ont confié à CNN que la localisation du site était appropriée pour y abriter les nouveaux missiles à longue portée nord-coréens, dont ceux capables de transporter des ogives nucléaires. Et puis, l'exécutif français s'évertue aujourd'hui à apaiser la colère insaisissable et incontrôlable des Gilets jaunes, disant redouter une très grande violence lors de la nouvelle manifestation samedi. L'Élysée craint une très grande violence samedi, a déclaré le palais présidentiel. mercredi soir, peu après que le gouvernement eut fait un geste qu'il espère décisif en renonçant pour l'année 2019 aux augmentations des taxes sur les carburants, ce qui était la revendication à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Le prochain journal dans ces 4 minutes, en compagnie d'Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.